Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et tous les mercredis, c'est l'actualité du cinéma. Aujourd'hui, on va parler d'un des plus beaux films de tous les temps, Otto e Mezzo, réalisé par un certain Federico Fellini en 1962. L'année d'après, en 1963, le film sort en France sous le titre 8 et demi. Mon invité ce matin, l'universitaire Marco Caramelli, transforme le chef-d'œuvre biographique de Fellini en un roman passionnant, Un beau désordre. Tel est le titre de ce livre, édité par Robert Laffont. On en parle dans un instant. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous réveiller avec le réveil culturel, si vous nous écoutez à la radio. Merci à tous les autres qui nous sont fidèles autrement, c'est-à-dire qui nous écoutent en différé ou en podcast. Corinne Amar à la coordination, Vincent Abouchard à la réalisation et Olivier Dupré qui nous accompagne ce matin à la prise du son du studio 351.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Bonjour Marco Caramelli.
Bonjour.
Comment on se sent quand on sort de ce livre, quand on a été dans la peau de Federico Fellini, qui plus est dans une des périodes les plus importantes de sa vie?
Eh bien, très bien, puisque en fait, je me suis glissé et dans la peau de Federico Fellini, et dans la peau de Marcello Mastroianni, et dans la peau de Guido Anselmi, qui est donc le personnage de 8 et demi que j'ai appelé Massimo Barbiani dans mon roman
documenté, même si ça reste une fiction. Très documenté d'ailleurs.
Très documenté, oui.
Depuis le titre, on peut partir du titre. Un beau désordre, c'est le titre que devait avoir ce film.
La bella confusione qui, en fait, pourrait se traduire... devrait se traduire plutôt en français par la belle confusion, car le terme italien confusion a plusieurs sens en français. Ça peut être donc le désordre, mais aussi la confusion au sens de confusion mentale. Et donc, c'est vrai que...
En l'occurrence, ça marche pour les deux sens dans ce livre.
C'est ça. Ouais. Évidemment, le personnage principal est aux prises avec une confusion générale. Et c'est vrai qu'en français, on a préféré désordre, un beau désordre. Esthétiquement, ça nous paraissait meilleur que une belle confusion. C'était moins joli comme titre. Donc,
ouais. Alors, avant de parler de votre roman, qui est votre premier roman, Marco Caramelli, parlons de votre rapport avec ce film. Je suppose que vous n'étiez pas né à l'époque de la sortie de ce film.
Oui, je n'étais pas du tout né, car l'information, je ne sais pas si elle vous a échappé, mais j'ai le même âge que le personnage du film et du roman, donc 43 ans. Et donc oui, j'ai découvert bien plus tard le cinéma de Fellini. Et je l'ai connu, je l'ai découvert avec tout le grand cinéma italien, donc un peu plutôt sur autour de 25-30 ans.
Mmh. Plutôt à la télévision qu'au cinéma, je suppose.
Oui, alors en fait, j'avais entendu depuis toujours l'existence de Fellini, mais je m'y suis intéressé un peu plus tard. Et plutôt en achetant des DVD.
Ok.
Donc j'ai découvert tous les grands cinéastes italiens dans cette époque. Et parmi ceux de Fellini, ce film-là a tout de suite eu sur moi un impact particulier.
Pourquoi justement Marco Caramelli?
Pour différentes raisons. Il y a déjà l'histoire qui me touche particulièrement, et à la différence des autres films, les personnages, je m'identifie énormément au personnage de Guido, ce qui par exemple n'est pas du tout le cas du personnage de Marcello dans La Dolce Vita. Et j'ai un attachement particulier au personnage de Louise, à la femme du personnage principal. Il y a Claudia Cardinale, qui est évidemment mon actrice préférée depuis toujours. Mais encore une fois, ce personnage particulier dans ce film me touche particulièrement. Et puis, il y a ce rapport aux femmes, puisque c'est un film qui parle du rapport d'un homme avec sa femme, et puis avec sa maîtresse, et puis avec...
Comment résumeriez-vous le 8 et demi Marco Caramelli?
Alors, le film démarre avec un réalisateur qui est, disons, connu, et qui, il parce qu'il est touché par un stress très particulier, il fait un malaise et on lui prescrit une cure thermale. Donc il se retrouve à cette cure thermale, mais comme il a signé un contrat avec un producteur pour un nouveau film et que la production a déjà démarré, le producteur dit bon, on peut pas prendre du retard sur le programme, donc il amène toute la production à l'hôtel où loge le réalisateur pour se reposer. Et très vite, eh bien, il ne pourra pas se reposer puisque il fait venir sa maîtresse et puis il fait venir sa femme et puis la femme dont il est amoureux, il la fait venir aussi parce qu'il lui propose un rôle. Et donc on se retrouve avec ces deux éléments importants du film qui sont le rapport du personnage principal avec les femmes, la construction d'un film, puisque évidemment on voit les coulisses de la fabrication d'un film.
Avec... Et c'est une réflexion aussi sur la panne d'inspiration aussi.
Oui, puisque effectivement c'était le malaise est venu du fait que ce réalisateur donc a signé un contrat. Comme il a été, il a eu pas mal de succès avec le film précédent. On imagine que le producteur lui a signé l'avance sans trop demander de garantie. Et donc là, ce réalisateur se retrouve avec une panne d'inspiration alors que le film doit se faire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'inspiration va revenir? Est-ce qu'on laisse tout tomber? Etc, etc.
Dans votre roman Un beau désordre, vous mélangez l'histoire de ce film avec l'histoire du film.
Alors, voilà, j'ai réalisé deux travaux en fait d'adaptation, puisque la première chose que j'ai réalisée, donc c'est une adaptation du film au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail d'auteur. Je ne me suis pas contenté, comme c'est le cas pour ce qu'on appelle les novélisations, je ne me suis pas contenté de prendre scène par scène et de décrire les scènes. Non, j'ai vraiment... Il y a des scènes que j'ai construites à 100% qui ne sont pas dans le film. Il y a d'autres scènes du film que j'ai supprimées. Et j'ai aussi ajouté ce que l'on peut faire en littérature et que l'on ne peut pas faire en cinéma, qui est par exemple les pensées des personnages. Donc, par rapport à une scène, j'ai imaginé ce que les personnages pouvaient penser. Donc ça, c'est le premier travail que j'ai fait d'adaptation. Et puis, il y a un autre travail que je trouvais intéressant, c'est que comme 8,5 est considéré... Fellini a toujours nié le côté autobiographique du film. Il semble évident quand on connaît l'histoire du réalisateur. Donc, c'est un film autobiographique auquel j'ai ajouté d'autres éléments autobiographiques. D'où le fait que j'ai dû me documenter énormément. Alors, c'est vrai que je l'avais fait depuis des années, puisque à chaque fois que j'aime un écrivain ou un réalisateur, j'ai tendance à me documenter largement. Je lis toutes les interviews, je regarde les vidéos. S'il y a des documentaires, je les regarde. Donc, je connaissais déjà sa vie. Et peut-être le fait de la connaître, ça m'a donné cette idée d'intégrer, de mélanger en fait des éléments de sa biographie aux éléments de la biographie, mais qui ont été inséré par Fellini lui-même.
C'est-à-dire fictionné par Fellini lui-même, puisque jusqu'au bout, il refusera de dire que c'est un film autobiographique.
C'est ça.
Un extrait de 8,5.
Je suis là. Voulez-vous que nous parlions du film ?
Oui, bien sûr.
Bon, vous me direz ensuite si vous jugez que je dois montrer mes notes à votre producteur. Parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus entre nous.
Non, 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 c'est moi qui ai demandé qu'on vous consulte.
Eh bien, une première lecture, c'est très confus. L'absence d'un thème majeur, ou si vous préférez, d'un argument philosophique...
Vous ne voulez pas vous asseoir ?
...fait du film une suite d'épisodes absolument gratuits, qui ne manquent d'ailleurs pas d'être divertissants dans le cadre de leur réalisme ambigu. Mais on se demande ce qu'ont voulu dire les auteurs. Veulent-ils nous obliger à penser ? Veulent-ils nous faire peur ? La composition du début à la fin manque d'envolée poétique. Excusez ma brutalité, mais si la démonstration était encore à faire, cela prouverait que le cinéma est en retard de 50 ans sur les autres arts.
Voilà. Un extrait du film de Fellini, un des classiques de Fellini, 8 et demi. Généralement, quand on lit un livre qui nous plaît, on a tout de suite ce réflexe de dire « mais quel beau film il fera !» Et généralement, les bons romans se transforment en films, bons ou mauvais, ça c'est un autre débat. Là, ce que vous fait mon invité ce matin, Marco Caramelli, c'est exactement le contraire. Il est parti d'un film, c'est un film qui lui a inspiré un roman. Alors, ce roman, Un beau désordre, édité chez Robert Laffont, a une vraie partie documentaire, hein, parce que il y a quelques informations qui sont vraiment réelles, il y a des anecdotes qu'on connaît, on pourra pas faire d'ailleurs, on peut pas tracer une frontière entre ce qui s'est réellement passé, ce que Fellini a bien voulu dire autour de son film, et ce que vous inventez en tant qu'écrivain, Marco Caramelli.
Oui, c'était un vrai challenge en réalité, puisque c'est à partir des premières personnes qui ont lu le manuscrit, mon éditrice, l'attaché de presse et puis d'autres personnes, que je me suis rendu compte que eux-mêmes n'arrivaient pas à faire la différence. Donc pour moi, c'est une grande réussite.
Comment vous réagissez déjà au projet, à la première page, hein, parce que je rappelle que dès le prologue, vous dites « je suis Fellini », à votre manière, bien sûr. Mais dès la première page, vous êtes dans la peau de Federico Fellini.
Oui, c'était important pour moi de choisir la première personne. Mm-hmm. Parce que je pense que ça rend toute la lecture beaucoup plus vivante. On se plonge vraiment dans la peau du personnage. Et justement, parce que c'est un personnage, le réalisateur que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup étudié, il y a aussi, dont je disais, je le connaissais déjà depuis des années, mais pour la préparation de ce livre, j'ai fait un travail documentaire très important. Donc vraiment, je me sentais prêt à pouvoir
me mettre son rôle
complètement, oui, et ouais. Pouvoir réfléchir ce qu'il aurait pensé. Alors, c'est vraiment un double jeu, puisque je me suis mis dans la peau, plus précisément, du personnage de Guido Anselmi. Mmh.
Donc le double fictionnel de Fellini.
C'est ça. Donc il y a un double jeu de miroir qui fait que il a fallu que je m'imprègne du personnage du film, puisque le film je l'ai vu aussi peut-être plus de 10 fois, du réalisateur Fellini, et j'ai mélangé tout ça, j'ai mis des choses personnelles également pour créer un nouveau personnage qui est un mélange de tous ces personnages-là.
Et ça donne un roman, un beau roman, une adaptation littéraire d'un des plus grands films de Federico Fellini. Mais dites-moi, Marco Caramelli, tous ces thèmes véhiculés par ce film, c'est-à-dire questionnements sentimentaux, rapport aux femmes, dilemmes créatifs, est-ce qu'ils ne sont pas datés? Est-ce qu'ils ne sont pas très années 60? Comment vous êtes senti impliqué dans ce genre de questionnement de Fellini?
Je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que
qu'il soit daté.
Les questionnements sentimentaux. Je crois que la relation des hommes avec les femmes, ou plus généralement les relations de couple, les problématiques d'un couple qui perd pied, l'intervention d'une maîtresse, etc. Je pense que à peu près 90% de la population française et mondiale est concernée aujourd'hui, au jour que je vous parle, par ces questions-là.
De la même manière qu'en Italie dans les années 60, au début des années 60.
Oui. Honnêtement, je vois pas dans les questionnements un homme, les rapports, est-ce qu'il aime toujours sa femme, il aime, il ne sait plus comment il aime, la maîtresse, elle est là, qu'est-ce qu'elle lui apporte, qu'est-ce qu'elle ne lui apporte pas, et une troisième femme qui le fascine. Honnêtement, je ne vois pas du tout en quoi ces questionnements-là aient pu changer. Je pense que c'est totalement universel. Et c'est la même chose pour les questionnements qui concernent la création artistique. Tout artiste, il y a 50, 10 ou... et dans 30 ans, auront exactement les mêmes...
Y compris le rôle que peut avoir un réalisateur aujourd'hui auprès de son équipe. Parce que ce qui est très drôle dans Un beau désordre, Marco Caramelli, vous montrez comment tous les gens vont voir le réalisateur, c'est-à-dire Fellini, c'est-à-dire le Fellini du film 8 et demi, c'est-à-dire vous-même adaptant 8 et demi en roman. Tous ces gens-là qui vont le voir, ils vont le voir avec vénération, c'est Dieu. Mmh. Aujourd'hui, est-ce qu'un réalisateur a le même statut ?
J'imagine qu'il y a des cas de figure très différents. Sur ce point-là, je suis d'accord avec ce que vous sous-entendez. C'est vraiment la présentation de comment Fellini travaillait, comment se passait un tournage de ses films, comment se passait la préparation de ses films. Donc là, sur la description de la partie fabrication d'un film, là, on peut. L'intérêt n'était pas de généraliser. C'est pas du tout. Ce sont pas des éléments universels. Là, c'est plus pour montrer comment un des génies, des réalisateurs les plus importants depuis 70 ans travaillait. Voilà. Donc ça, je dirais que sur ce point-là, on n'est pas dans quelque chose de généralisable. Voilà.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Nous sommes avec Marco Caramelli ce matin, qui publie Un beau désordre et qui revient donc sur le tournage du film 8,5, le chef-d'œuvre de Federico Fellini, d'ailleurs qui est considéré comme un des plus beaux films de tous les temps. Marco Caramelli, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des petits Fellini dans l'Italie d'aujourd'hui ? Ou des réalisateurs qui peuvent devenir Fellini ou qui peuvent avoir la place qu'a eu Fellini dans les années 50, 60, 70
Certainement que non.
Pourquoi certainement que non?
Alors moi je fais partie des personnes qui sont un peu nostalgiques de la...
D'une période que tu n'as pas connue. Aussi un peu, ouais.
Mais c'est vrai que quand on voit, serait-ce que des documentaires ou des films de cette époque-là, les vêtements étaient plus beaux, l'architecture était plus belle, les automobiles étaient... Enfin, il y avait une beauté généralisée. L'art, à cette époque-là, a eu un foisonnement dans tous les domaines qui me semble difficile de retrouver aujourd'hui un tel foisonnement. Mais c'est la même chose pour le rock, vraiment tous les...
C'est un nostalgique, quoi.
Totalement. Mais pour répondre à votre question, le réalisateur italien que l'on a un petit peu... rapproché de Fellini et qui d'ailleurs a rendu hommage à Fellini quand il a reçu son Oscar du meilleur film, c'est Paolo Sorrentino, surtout dans le film La Grande Bellezza, qui a reçu l'Oscar du meilleur film étranger. Il y avait énormément de clins d'œil au travail de Fellini. Aussi d'un Youth qu'il a réalisé quelques années après, on retrouve une station thermale, donc il y a des petits clins d'œil.
Même si c'est un film américain, son film américain.
Oui. Ouais. Mais voilà, c'est le réalisateur qui est considéré un peu comme le fils spirituel de Fellini en Italie.
Alors pardonnez-moi de vous poser encore une autre question pour spécialiste, spécialiste du cinéma italien. Vous savez pourquoi le cinéma italien traverse une telle crise très longue, c'est-à-dire depuis les années 80, depuis la fin de la comédie à l'italienne, mis à part quelques exceptions, on n'est plus autant emballé par le cinéma italien. Comment vous expliquez cette crise ?
Alors, je dirais qu'il y a eu effectivement un gros vide, on va dire, années 80-90. Dans ce vide-là, émergeait comme exception Nanni Moretti.
Bien sûr, ouais.
Et depuis les années 2000, quand même, il y a... alors, je ne suis pas un spécialiste du cinéma, donc je vous reporte ce que j'ai pu lire au sujet du cinéma italien, mais il y a quand même un retour avec Matteo Garrone, des gens comme ça, Paolo Sorrentino. On considère quand même depuis une bonne dizaine d'années, le cinéma italien est revenu à un niveau...
Vous allez les voir, ces nouveaux films?
Quelques-uns. Je suis... Oui, assez souvent, les meilleurs. Je me documente sur chaque fois qu'un film, on en parle pour sa qualité. J'essaye d'aller les voir. Oui.
On entend dans votre voix que vous êtes d'origine italienne, Marco Caramelli, et même votre nom. Vous venez d'où ?
La région de Naples, et plus précisément une ville qui s'appelle Montesarchio, qui est à une cinquantaine de kilomètres à l'intérieur des terres par rapport à Naples.
Alors comment est née votre cinéphilie ?
Je peux identifier un moment particulier. Je dirais que c'est une jeune femme que j'ai connue quand j'avais à peu près 27-28 ans, qui était ma petite amie de l'époque, qui était d'ailleurs marocaine. Et donc, en me connaissant, elle me dit « Ah, tu es italien, tu dois connaître le grand cinéma italien. » Et moi, j'étais très gêné parce que c'était pas du tout le cas. « Ah, mais comment ça ? Rossellini, Antonio, etc. » Elle m'a dit « Ah, mais il faut que je te fasse connaître. » Elle avait toute une collection de ses grands films chez elle. Et donc, à partir de ce moment-là, chaque fois que nous voyions... il y avait moi je lui préparais un dîner italien et après le dîner
elle vous préparait un film italien.
C'est ça. Et donc c'est grâce à une jeune femme que j'ai découvert tous les grands cinéastes de cette époque-là.
Vous êtes plus passionné par le cinéma que par la littérature ou ça marche ensemble pour vous, Marco Caramelli ? C'est la question que je vous pose à l'occasion de la sortie de votre premier roman, donc un beau désordre.
Je lis plus que ce que je regarde de films, ce qui est peut-être assez... Je ne suis pas un glouton de films comme certains qui regardent des films en grande quantité. Moi, je dis souvent que je ne suis pas un bon public. C'est-à-dire que je préfère regarder peu de choses de qualité. Même les romans, je ne dévore pas les romans. D'ailleurs, c'est un terme que je trouve absolument obscène.
Dévorer
des romans. Enfin, j'ai pas pour moi. On dévore, une carcasse, mais pas du tout quelque chose de bon. On dirait pas. Je suis allé dans un très bon restaurant et j'ai dévoré les plats qu'on m'a. Enfin, je trouve que le terme est très mal. Choisi, je n'aimerais pas qu'on me dise j'ai dévoré ton roman, je préférais qu'on me dise j'ai dégusté, j'ai savouré, mais dévoré, je trouve que c'est totalement péjoratif. Mais voilà, je ne suis pas quelqu'un qui dévore les choses, je préfère lire que regarder des films, parce que j'ai l'impression que ça me nourrit davantage en fait. Regarder les films, j'ai pas l'impression d'apprendre grand chose, alors que quand je lis, j'ai l'impression qu'il se passe plus de choses. Ça m'intéresse davantage.
Et comment le Napolitain est arrivé en France et à Paris ?
Là, il faudrait une émission de radio spéciale pour raconter cette histoire qui est très longue. Mais disons, pour résumer...
Le quick résumé radio.
Voilà, c'est mon père qui était venu vivre en France et donc... par une histoire un peu complexe, je me suis retrouvé à le suivre à l'âge de 10 ans environ.
Et s'il fallait parler, pour terminer, rendre un dernier hommage à Fellini, mis à part 8,5, mais aussi la Dolce Vita, il est aussi question de Dolce Vita dans votre roman Un beau désordre.
Oui, alors parmi les petits jeux que j'ai réalisés en écrivant ce roman, j'ai inséré une scène de la Dolce Vita, et pas n'importe laquelle. Alors, je ne sais pas si je peux révéler ce petit détail, mais en fait, il y a un moment donné dans 8,5, pour ceux qui l'ont vu, c'est tout au début du film, le personnage principal arrive à la source et puis il vient chercher son eau bénite, ce qu'on appelle en italien l'acqua santa, j'ai traduit par eau bénite, et il a une apparition, donc il a Claudia Cardinale qui lui apparaît comme un mirage. Et pendant que j'écrivais, je me suis dit, tiens, il faudrait que je raconte comment ils se sont connus. Et j'ai eu cette idée intéressante d'utiliser, je ne vais pas tout révéler, d'utiliser une scène de la Dolce Vita pour illustrer la manière dont... le protagoniste aurait rencontré... du coup, j'ai créé une petite histoire qui s'ajoute à l'histoire du film et de la réalité.
Vous retournez souvent en Italie ?
J'y ai retourné régulièrement tant que ma mère y vivait, ce qui n'est plus le cas depuis qu'elle a pris sa retraite et qu'elle a souhaité venir se rapprocher de ses enfants en France. Donc avant, j'y allais, j'allais la voir tous les Noëls et tous les étés.
En faisant un pèlerinage dans les lieux marqués par le cinéma de Fellini ou le cinéma italien, vous êtes du genre à passer par la fontaine de Trévise, par exemple, quand vous êtes à Rome, ou pas forcément?
Non,
vous évitez les coins touristiques?
Ouais, je ne suis pas particulièrement fétichiste. Non, c'est pas quelque chose que... Mais effectivement, en passant... la prochaine fois que j'y passerai, j'en ai parlé dans ce roman, effectivement, j'aurai un double pincement de cœur en passant devant la fontaine de Trévise.
Alors, ce livre, vous l'avez écrit en français, c'est bon de le dire?
Tout à fait.
Bon.
Bien sûr.
Il est sorti en Italie? Il n'y a pas un éditeur italien qui est intéressé par votre livre?
Ils ne savent pas qu'il existe, donc
pas encore.
Quand il sortira, peut-être que s'il a du succès, un éditeur italien, et puis peut-être des éditeurs d'autres pays s'intéresseront à ce roman.
Le réveil culturel de Tufik Hakem est disponible pour le podcast sur franceculture.fr ou sur l'application Radio France.
Marco Caramelli, Un beau désordre, c'est édité chez Robert Laffont. Merci d'être passé ce matin nous en parler.
Merci à vous de m'avoir invité.